L'Afrique en marche. Une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de l'Afrique en marche.
Je pense que les Sud-Africains ont tout intérêt à avoir de bonnes relations aussi avec la Chine et aussi avec la Russie. Deux acteurs clés qui sont appelés à jouer un rôle de plus en plus grand en Afrique.
Mon invité d'aujourd'hui est Akram Khariev, expert en sécurité et en défense, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Avec lui, nous traiterons de la portée politique, militaire et géostratégique des exercices navals conjoints entre Russes, Chinois et Africains du Sud en février 2023. Nous analyserons les possibilités que ces manœuvres soient un signe annonciateur d'une alliance militaire au sein des BRICS formée par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Une alliance appelée à jouer un rôle déterminant dans une région névralgique du monde pour le fret maritime. À tout de suite. Les guerres hybrides menées par les pays occidentaux ne pourront pas empêcher le développement de nouveaux centres de pouvoir économique et politique, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors de sa visite en Érythrée. Au cours de cette dernière étape de sa tournée africaine, le chef de la diplomatie russe s'est également entretenu avec les dirigeants de l'Afrique du Sud, de l'Eswatini et de l'Angola. Le périple du ministre a suscité l'inquiétude, voire la fureur en Occident, qui tâche d'empêcher le renforcement des liens entre Moscou et les pays africains. D'autant plus que la Russie, l'Afrique du Sud et la Chine planifient des exercices navals conjoints dans l'océan Indien. Ils auront lieu du 17 au 27 février 2023 au large de l'Afrique du Sud, non loin de la province côtière de KwaZulu-Natal. Il convient de noter en particulier la participation de la frégate russe Amiral Gorshkov avec à son bord des missiles hypersoniques Zircon. L'information sur ces exercices a suscité, comme l'a dit Sergueï Lavrov, des réactions mitigées de certains pays, dont les États-Unis. Le chef de la diplomatie russe a exprimé son étonnement quant à leurs préoccupations. Monsieur Lavrov a insisté sur le droit souverain des pays à mener de telles manœuvres. Son homologue sud-africaine, Naledi Pandor, a confirmé que les exercices avec des États amis sont une pratique normale. Il ne peut y avoir de pression de la part de pays tiers. Il s'agit du second exercice trilatéral après l'entraînement conjoint des marines chinoises, russes et sud-africaines en 2019. Dans les eaux du Cap de Bonne-Espérance. Mzuvu Kile Jeff Makituka, ambassadeur sud-africain en Russie, a indiqué que les exercices pourraient devenir un événement annuel. D'après Défense Web, ces manœuvres maritimes baptisées Opération Mozi, ce qui signifie fumée, impliqueront des exercices de recherche et de sauvetage de navires en détresse, d'officiers de quart, de tir, de protection de la force et de défense aérienne. Cet entraînement intervient après la clôture des exercices navals bilatéraux sino-russes en mer de Chine orientale du 21 au 27 décembre 2022. Il visait à mettre en avant les capacités conjointes des deux alliés pour contrer les menaces maritimes et en même temps à défendre nominalement et la paix et la stabilité régionale. Se trouvant sur l'un des chemins de navigation les plus sensibles entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud, l'Afrique du Sud occupe une position géographique stratégique. Elle peut également devenir le pivot du fret maritime venant de la mer Baltique en direction de l'Asie en cas de fermeture du canal de Suez et du détroit de Bab el-Mandeb sur le golfe d'Aden. Ainsi, quel rôle pourrait jouer ce pays dans le contexte mondial actuel marqué par l'opération spéciale russe en Ukraine et la recrudescence des menaces militaires au Moyen-Orient, notamment au Yémen et au Golfe Persique. Pour répondre à cette question, chers auditeurs, j'ai le plaisir de recevoir Akram Khariev, expert sécuritaire et militaire, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense.
Monsieur Akram Khariev, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour.
Donc, ma première question, d'un point de vue géostratégique, comment qualifiez-vous ces exercices entre ces trois pays, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine, et leurs objectifs qui leur sont assignés? Ça veut dire des objectifs tactiques, militaires tactiques.
C'est très intéressant. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est l'inclusion de l'Afrique du Sud dans cet exercice, de par l'éloignement de ce pays du théâtre principal des opérations communes entre la Chine et la Russie, qui est l'océan Pacifique. Là, avec l'inclusion de l'Afrique du Sud, le centre de gravité se décale plutôt vers l'océan Indien. Et inclut aussi, en fait, inclut même une partie de l'Atlantique. Donc, nous sommes sur trois pays qui couvrent trois océans et qui voient leur zone d'influence et leur zone d'activité militaire totalement se développer de manière exponentielle. C'est aussi intéressant de voir que, encore une fois, on retrouve les mêmes acteurs des BRICS, donc l'Afrique du Sud, la Russie et la Chine. On voit une convergence de points de vue et une convergence d'intérêts qui dépasse l'aspect économique. On est réellement dans la géostratégie aujourd'hui. Et on voit aussi que l'Afrique du Sud tient bon en ce qui concerne sa proximité, en fait sa neutralité sur le plan géopolitique, et son envie de rejoindre un monde multipolaire qui serait de son intérêt. Hein, de son intérêt. L'Afrique du Sud a expérimenté le monde unipolaire ces 30 dernières années et elle a regardé, elle a contemplé le fait qu'elle soit à la marge de ce monde et que au final, ce pays allait être appelé à régresser sur les points de vue économiques au fil du temps. Donc, je pense d'où leur volonté de rejoindre ce monde plutôt multipolaire.
D'accord, mais sur le plan des objectifs tactiques militaires, qu'est-ce que vous en pensez?
Il s'agit de couvrir le maximum de territoire maritime possible. Lorsqu'on fait ce genre d'exercice, on apprend d'abord à communiquer entre nous. On apprend aussi à unifier nos procédures militaires. Et donc, on apprend à travailler de la même manière que l'on soit à bord d'un navire chinois, d'un navire russe ou d'un navire sud-africain, sachant que la marine sud-africaine est essentiellement constituée de bâtiments occidentaux, notamment allemands essentiellement. Et donc, cet échange d'expertise et cette unification des procédures fait que demain, les navires russes et les navires sud-africains et chinois pourront travailler ensemble, faire des opérations conjointes et unifier leur capacité. Ça veut dire aussi que aujourd'hui, la marine sud-africaine peut travailler ou pourra travailler grâce à l'acquisition de ces procédures, pourra travailler dans le Pacifique, pourra étendre son champ d'action aussi dans l'océan Indien, puisque la Chine est très présente dans l'océan Indien. Donc, on a ce gain qui est réel pour les trois marines et donc ça va se ressentir demain dans le travail en coordination entre les trois armées du Proma.
D'accord. Ma deuxième question va sur la question sur la position géographique stratégique de l'Afrique du Sud, qui est certainement un des facteurs ayant motivé ces exercices. Alors, l'Afrique du Sud se trouve sur l'un des chemins de navigation les plus sensibles entre l'Amérique latine et l'Asie du Sud. et l'Asie du Sud, c'est-à-dire les liens entre l'Amérique latine, le fret maritime passe inévitablement par l'Afrique du Sud. Et elle peut également devenir un pivot du fret maritime venant de la mer Baltique en direction de l'Asie du Sud également en cas de fermeture du canal du Suez. Avec toutes les perturbations qu'on voit actuellement au Moyen-Orient, risque de guerre entre Israël et l'Iran, les risques que de perturbations apparaissent ici par là, et on, également à cause de l'opération spéciale russe en Ukraine. Ma question, c'est la recrudescence des menaces militaires au Moyen-Orient, notamment au Yémen et au Golfe Persique, ne justement présage pas-t-il l'Afrique du Sud à être un pivot dont les questions de navigation maritime.
En tout cas, sur le chemin entre l'Asie, l'Europe et l'Est de l'Amérique latine, l'Afrique du Sud est une sorte d'îlot de sécurité ou d'îlot de libre passage pour les navires. Donc, c'est la seule grande puissance dans la région qui puisse garantir un passage assuré et sécurisé pour les navires marchands entre ces deux zones-là qui sont en fait qui représentent 90% du trafic maritime mondial. Donc vous avez évoqué effectivement la possibilité d'occurrence de troubles au niveau de la mer Rouge, au niveau du détroit de Bab el-Mandeb ou au niveau aussi du canal de Suez. Il y a aussi la possibilité un jour que la Russie puisse subir des sanctions menant à interdire à ses navires marchands un accès par le détroit de Gibraltar. Donc c'est tout à fait possible vu le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc effectivement, dans ce cas-là, je pense que l'Afrique du Sud est en train de jouer un rôle de une sorte de gendarme pour le passage en urgence des navires marchands entre l'Asie et l'océan Atlantique. De l'autre côté, la Russie essaie aussi d'être présente dans les lieux. On sait que la Russie, par exemple, est en train de négocier, même si ça a pris du retard, donc l'installation d'une base militaire à Port-Soudan, au Soudan, pour pouvoir faciliter la sécurisation des passages. Mais comme vous l'avez noté, cette région-là est devenue un foyer de troubles, mais c'est devenu aussi une région où se trouvent de très nombreuses bases navales étrangères. On compte une base navale française, chinoise, états-unienne, émiratie.
Japonaise aussi, à Djibouti.
Tout à fait. Donc, c'est en train de devenir un passage contesté. Et c'est pour cela que l'Afrique du Sud est très important.
Est-ce que vous pensez, Monsieur Khalief, que ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, que la possibilité d'interdire, mais pas uniquement à la Russie, mais même à la Chine ou n'importe quel allié de ces deux pays, l'accès au canal donc longeant la mer Rouge et jusqu'au delta de Suez pour accéder à la mer Méditerranée. Est-ce que cela est un scénario plausible pour vous?
Ben, qui aurait dit il y a simplement 5 ans que une trentaine de navires ces 3 dernières années soient touchés par des attaques de drones dans le golfe Persique ou en mer Rouge ou bien en mer d'Oman? Personne n'aurait cru ça. Donc on est face à une situation où aujourd'hui on a une démocratisation de l'usage des missiles de croisière, des missiles anti-navires et des drones suicides. Et donc cette possibilité devient très accessible non seulement au pays mais aussi au groupe armé qui pourrait l'utiliser. On a aussi les problématiques qui sont liées à la piraterie en mer Rouge et surtout dans le golfe d'Oman qui aussi sont reproductibles. Donc c'est tout à fait possible et plausible qu'on atteigne un degré de pourrissement de la situation dans cette zone-là surtout si demain nous avons un désengagement de grandes puissances ou si nous avons une confrontation entre, par exemple, la Turquie et les Émirats qui ont tous les deux des bases navales là-bas. Si on a ce genre de correspondance, cela va emmener à une fermeture ou une difficulté de passage. Et n'oublions pas aussi le cas du simple incident maritime du navire porte-container Evergreen il y a 3 ans, qui a complètement bouché, obstrué le passage du canal de Suez et qui a fait énormément de dommages sur l'économie mondiale, là, qui a eu un impact énorme sur l'économie mondiale.
Pour rappel,
le 23 mars 2021, le porte-conteneur Evergreen, l'un des plus grands du monde, traversait le canal de Suez pour se rendre de Malaisie en Hollande. Il s'est échoué quand il a traversé le canal. Le trafic a donc été interrompu et n'a repris que 6 jours plus tard. Selon certains rapports, cela a coûté au commerce mondial 400 millions de dollars par heure.
Une autre question, avant de passer à la troisième, c'est supposons dans ce scénario que le canal de Suez et tout le canal qui passe, qui longe donc la mer Rouge jusqu'au delta qui donne l'accès à la Méditerranée, est perturbé, fermé. Est-ce que vous pensez que le chemin, par exemple, pour la Russie, pour acheminer des marchandises vers l'Asie du Sud via la mer Baltique et en longeant la côte ouest de l'Europe et de l'Afrique, pour passer par l'Afrique du Sud est un chemin qui est plausible à utiliser, possible à utiliser, viable et sécurisé. Ça, tout en sachant que le long de toutes ces côtes, au moins jusqu'à l'Afrique, et on a des bases de l'OTAN un peu partout.
Oui. Je pense que c'est une option qui est à l'étude par la Russie. La Russie est en train d'investir énormément collaboration de la Chine sur des routes plutôt terrestres en Asie pour essayer de faire une jonction entre la partie asiatique de la Russie et les pays du sud de l'Asie. Donc nous avons la fameuse ligne ferroviaire Vladivostok-Lahore au Pakistan. Nous avons une ligne aussi de Chennai en Inde qui va jusqu'au nord de la Sibérie, je pense jusqu'à Novosibirsk. Donc nous avons cette volonté de favoriser les échanges par rail et par route. Mais comme on le sait, la Russie est un énorme pays avec une infrastructure routière qui est assez fragile et qui est très longue aussi à utiliser. Donc la voie maritime permet de déplacer de très très grandes quantités de marchandises de manière moyennement rapide. Donc nous avons cette option-là qui serait une voie maritime démarrant de la Baltique ou même carrément de l'océan Arctique, donc de Murmansk. Nous avons aussi la ligne nord qui est en train, à cause ou grâce au réchauffement climatique, de s'ouvrir. On a vu aussi que la Russie, ces dernières années, a investi sur des brise-glaces nucléaires. Elle en a réceptionné récemment un et je pense qu'elle en a commandé 4. Donc, nous sommes aussi sur l'option et l'optique d'ouvrir une voie maritime au nord de la Chine qui lierait Murmansk à, disons, Vladivostok. Et donc, de là, de Vladivostok à tout le sud de l'Asie. Donc, toutes ces options-là ne sont pas écartées et je pense que les enjeux internationaux font que le plus de passages il y aura et le plus la Russie, le mieux la Russie se portera et je pense que pour cela l'Afrique du Sud restera un partenaire crédible dans cet outil.
Mais je voudrais vous passer une question d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que supposons maintenant qu'il y a des navires qui vont justement des ports dans le nord de la Russie en passant par la mer Baltique vers le sud. C'est-à-dire que si ces navires-là passent dans les eaux internationales, normalement, aucun pays n'a le droit de les intercepter ou de les déranger. C'est-à-dire, dans le contexte actuel un peu tendu, d'un côté comme de l'autre, des deux blocs actuellement, est-ce que ce scénario est possible? Est-ce que,
non, sur le plan de la légalité internationale, le passage, sauf pour les navires marchands, est garanti. Il est garanti du point de vue de la légalisation. Mais lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec Nord Stream, par exemple, nous avons un incident qui s'est déroulé dans les eaux internationales et en partie aussi dans des eaux nationales sur un édifice appartenant à un consortium germano-russe et de manière totalement illégale. Donc on est hors de la légalité internationale.
Pour rappel,
le 26 septembre 2022, plusieurs actes de sabotage ont été commis sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique. Ils ont été touchés par des fuites précédées d'explosions sous-marines. Suite à cela, les services de sécurité russes ont ouvert une enquête pour actes de terrorisme international.
On ne sait pas aujourd'hui si ce genre d'infraction sera amené à... Est-ce qu'il y aura une escalade dans ce sens-là? Ou si les choses vont aller plutôt vers l'apaisement. Et donc, je pense que pour des raisons de préservation des flux commerciaux, il est nécessaire d'ouvrir le maximum de canaux possibles et de prendre en compte le maximum d'éventualités possibles. Donc, aujourd'hui, pour la Russie, pour la simple raison qu'elle permet des échanges entre la Russie et Kaliningrad. Donc, elle est essentielle. Mais demain, nous pouvons nous retrouver sur des situations de guerre autour de cette exclave de Kaliningrad qui ferait que les navires...
Donc, merci. Et je passe à la troisième question, Monsieur Kharian. Donc, en prenant en considération tout ce que vous venez de développer maintenant, l'Afrique du Sud, qui est la première puissance économique d'Afrique et sa troisième puissance militaire derrière l'Égypte et l'Algérie, qui est l'autre allié de la Russie et de la Chine, est-ce que, à votre avis, travaille-t-elle à avoir un statut de pays pivot des BRICS en mettant à contribution aussi bien ses ressources, ses infrastructures portuaires que son armée?
Bien sûr, c'est un pays pivot. Les pays importants dans l'hémisphère sud ne sont pas très nombreux. Que ce soit en termes de capacité économique ou en termes de capacité militaire, on n'en a pas beaucoup, hein, en dehors de la Nouvelle-Zélande de manière modérée de l'Australie, nous n'avons pratiquement rien à l'extrémité de l'hémisphère sud. Donc, l'Afrique du Sud est très importante. Je pense que, en intégrant le Brésil, nous avons son pendant en Amérique latine, et nous avons une sorte d'alliance qui domine une bonne moitié de l'hémisphère sud, et ce qui représente un enjeu très très important, justement demain en matière de gestion des ressources naturelles, parce que les ressources naturelles dans ces régions-là sont très importantes et sont très abondantes, et surtout en termes de flux d'échanges. Parce que l'on constate que les échanges commerciaux passent essentiellement par l'hémisphère sud, pour arriver à l'hémisphère nord. Donc oui, tout à fait.
D'accord. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que vous pensez que ces entraînements militaires, ces exercices, peut-être nous verrons aussi des manœuvres à balles réelles dans les prochaines années, est-ce que vous pensez que c'est une sorte d'alliance militaire qui pourrait émerger au sein des BRICS en plus de son aspect économique?
Oui, oui, c'est une sorte de pôle militaire fort qui est au sein des BRICS. Je pense que sa vocation est à contrer les regroupements qui sont en train de naître maintenant dans le sud du Pacifique, entre les principales armées qui sont là-bas, les principales marines qui sont là-bas, les méga contrats qu'ont contractés les Australiens auprès des États-Unis, Il ne faut pas aussi oublier que la France est une puissance maritime dans le Pacifique. C'est le plus grand territoire maritime au monde. Donc, ils opèrent de manière très puissante dans le Pacifique. On a la Chine qui est en train d'établir un réseau d'îles et d'étendre son influence aussi dans le sud du Pacifique. Et donc, nous avons ce renforcement par le sud de l'océan Indien avec l'Afrique du Sud, qui tend à créer une sorte d'équilibre entre la présence navale occidentale dans le sud Pacifique et surtout les enjeux de demain, parce que vous savez, vous avez l'océan Indien qui est en train de devenir un véritable enjeu avec l'Inde qui est en train de devenir un acteur incontournable, Inde acteur aussi des BRICS, avec le Pakistan qui a une marine très importante, avec les enjeux autour de la mer d'Oman. Donc nous sommes en train de voir que l'océan Indien échappe quelque peu à l'emprise occidentale. Mm-hmm. Et je pense que c'est une façon pour la Russie et la Chine de se positionner de manière forte, connaissant les inimitiés existantes entre la Chine et l'Inde, par exemple, de bien se positionner sur l'océan Indien qui est devenu un véritable enjeu.
Et si l'Iran, veut sérieusement et activement intégrer le groupe des BRICS, qui est l'Iran, que je rappelle, est déjà membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, si l'Iran joint donc sa force et sa puissance économique et militaire, est-ce que vous pensez que ce bloc Russie, Chine, Afrique du Sud, Iran et probablement peut-être le Brésil aurait les moyens justement de s'imposer et ou d'imposer le respect et la sécurisation des intérêts, qu'ils soient géographiques ou économiques ou militaires?
Bon, ça passerait par une évolution aussi de l'Iran, parce que l'Iran est une puissance naissante, mais c'est aussi une puissance en devenir qui doit se construire. Par exemple, aujourd'hui, nous avons, très peu de gens le savent, nous avons deux armées qui sont totalement parallèles. Nous avons l'armée, l'Artesh, oui. L'Artesh Iran, qui est l'armée régulière, et nous avons les gardiens de la révolution. Est-ce que vous savez que, en termes naval, l'armée, donc la marine dépendante de l'Artesh, couvre uniquement la partie océan Indien et pas le Golfe. Et le contraire s'applique sur les gardiens de la révolution. Donc nous avons un pays comme l'Iran qui a deux armées, deux marines et deux visions différentes et qui se concentrent aujourd'hui, et je pense pour les prochaines 10 prochaines années, qui va se concentrer plus sur le Golfe Persique que sur l'océan Indien. Et donc, si l'Iran n'est pas accompagné dans une transformation, parce que ça implique de fusionner les deux, donc ça implique la disparition du gardien de la révolution, et donc une évolution vers quelque chose d'autre que connaîtrait l'Iran. S'il n'y a pas cet accompagnement-là, donc par la Russie, la Chine et d'autres puissances, je pense que l'Iran finira par peut-être s'occidentaliser ou peut-être se transformer, parce que la situation telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas tenable. Très très long. Donc, on le voit, il y a une volonté, et ça explique la volonté de l'Iran de se rapprocher de la Chine et de se rapprocher de la Russie. Ils sentent des mutations en Iran et donc ils cherchent à s'adosser à d'autres puissances, à des puissances autres que occidentales. Donc oui, l'Iran est appelé à rejoindre les BRICS et à jouer un rôle prépondérant dans les BRICS en termes militaires aussi, à condition que l'Iran soit accompagné dans sa transformation.
Chers auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est Akram Khariev, expert sécuritaire et militaire, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. En résumé de cette première partie, il est important de noter, selon mon interlocuteur, qu'il n'y a aucun doute sur le fait que ces exercices conjoints à répétition entre les pays des BRICS constitue une stratégie à moyen et long terme visant à faire émerger une alliance militaire et sécuritaire au sein de cette organisation. Pour Akram Khariev, même les États qui sont candidats potentiels à rejoindre les BRICS, dont les trois continents, Afrique, Amérique latine et Asie, sont tous d'une grande importance stratégique régionale. Il s'agit par exemple du Pakistan, de l'Iran, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte, de l'Algérie et du Nigeria. Les années prochaines, il est fort probable que tous ces États décident de transformer les BRICS, en plus de leur capacité économique, en une alliance militaire et de défense à même d'imposer le respect des intérêts vitaux de ces pays membres. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Akram Khariev, expert sécuritaire et militaire, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Bien que l'Afrique du Sud soit membre des BRICS, il n'en demeure pas moins que l'essentiel de son armement provient des pays de l'OTAN, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne pour ce qui est de la marine. Aussi, de quelle façon seront coordonnés les exercices sous un même commandement intégré? Dans les années à venir, peut-on voir l'Afrique du Sud se tourner résolument vers l'acquisition d'armements russes et chinois? A contrario, l'Afrique du Sud a-t-elle plus intérêt à garder une position de puissance régionale à cheval entre les deux blocs en compétition?
Bon, l'Afrique du Sud, d'abord, était un très grand pays producteur d'armes. C'est un pays qui a souffert pendant plusieurs années, et à juste titre, de sanctions internationales et d'un embargo sur les armes à cause de l'apartheid. Et c'est durant cet embargo-là que l'Afrique du Sud a développé une industrie militaire très performante et très décalé en termes d'efficacité par rapport aux autres industries militaires. C'est vrai que après la chute du régime de l'apartheid, il n'y a plus cet embargo. On a vu déferler des armements plutôt occidentaux parce qu'il y avait une tradition occidentale en Afrique du Sud. Et en parallèle, on a vu aussi un déclin de l'industrie militaire sud-africaine qui d'abord a été divisé en petits morceaux, vendu à des entreprises notamment européennes ou anglo-saxonnes. Et donc, il y a eu une sorte de phénomène de retour en arrière de l'armée sud-africaine qui a perdu énormément de moyens ces dernières années et qui aujourd'hui est en souffrance. C'est une armée qui souffre beaucoup, qui n'achète pas beaucoup d'armement, qui a mis, par exemple, en réserve l'ensemble de sa flotte d'aviation. Et donc, parler d'acquisition, de modernisation, de vente d'armes russes, je pense que c'est un petit peu prématuré. Mais si demain la Chine et la Russie avaient une ambition de vendre des armes à l'Afrique du Sud, en adaptant une stratégie passant par de la coopération sur la fabrication locale, etc., je pense qu'ils pourraient trouver en l'Afrique du Sud un client très très sérieux et un client qui pourrait leur ouvrir aussi les portes de l'Afrique australe, du marché militaire des pays d'Afrique australe, sachant néanmoins que vous avez de très très gros clients de la Russie, un peu de la Chine, qui sont en Afrique australe, notamment l'Angola, qui est un très très grand client de la Russie, et le Mozambique, qui est aussi un grand client de la Russie, un grand client de la Chine aussi. Donc, on peut dire que les chances de la Russie de placer des équipements militaires les prochaines années en Afrique du Sud existent. Elles sont assez minces, mais elles existent. Maintenant, quand tu as parlé de la façon de travailler de l'Afrique du Sud avec la Russie et la Chine. Bon, en termes de marine, généralement, les marines sont très facilement interopérables. Donc, ça utilise essentiellement des communications radio, des échanges de données, et c'est facile de communiquer dans ce cas-là. La seule chose qui peut poser problème, c'est la barrière de la langue. Donc,
Vous pouvez répéter, s'il vous plaît?
Oui, le seul problème, c'est la barrière de la langue. Donc, trouver une sorte de lingua franca entre les trois pays qui serait utilisée pour coordonner leurs opérations maritimes. Dans ce cas, je pense que la Chine et la Russie prendront l'anglais comme base de travail pour coopérer avec l'Afrique du Sud, dont la marine fonctionne essentiellement en anglais. Après, en termes d'équipement, il n'y a pas de gros désavantages à intégrer des équipements occidentaux dans des exercices maritimes. Un bateau, c'est un bateau. Donc, ça flotte.
Donc cette coopération militaire ou cette espèce de front ou d'alliance militaire au sein des BRICS, en fait, elle peut être mise en branle, en construction tout de suite, même si les armements sont d'origine différente. Il n'y a absolument aucun souci par rapport à ça.
Bien sûr, du moment où les armements sont disponibles, elle peut être mise en branle assez rapidement. L'idéal, bien sûr, c'est l'économie des efforts et les économies en général, donc une unification des calibres, des armements, etc. Mais le besoin en termes opérationnel, en termes d'unification, il touche surtout l'armée de terre. Et je vois mal une coopération entre l'Afrique du Sud et la Chine ou la Russie dans les domaines de l'armée de terre à cause de l'éloignement. Ils peuvent se rencontrer dans les mers, ils peuvent se rencontrer dans les airs, mais très peu probablement. Même si sur certains territoires, les Sud-Africains rencontrent les Russes, notamment au Mozambique, dans le cadre de la lutte antiterroriste.
D'accord. Et j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots sur ce qu'avait l'Afrique du Sud en termes d'industrie militaire et de la qualité de ce qu'elle produisait avant de se réouvrir à l'importation qui est le fléau de l'Afrique depuis les indépendances. Ce n'est pas juste aujourd'hui.
Oui, oui. L'Afrique du Sud était pratiquement autonome en tout. Il fabriquait pratiquement tout seul. Et s'ils ne fabriquaient pas, ils achetaient et modifiaient, amélioraient les équipements. Donc, et ça va de l'arme individuelle, leur armement individuel est basé sur l'AR-4, qui est lui-même basé sur le galet israélien, et qui est lui-même, à votre avis, basé sur quoi? Donc, sur la K-47 russe. Donc, nous sommes dans cette continuité-là. Ils sont dans l'amélioration, ils étaient du moins dans l'amélioration continue, et ça va de l'arme individuelle jusqu'à l'arme nucléaire, parce que les Sud-Africains avaient produit des armes nucléaires, avaient même testé des armes nucléaires.
Pour rappel,
dans les années 70, l'Afrique du Sud a commencé à développer des armes nucléaires en collaboration avec Israël et les a testées en 1979. En 1990, le président sud-africain Frédéric de Klerk a décidé de renoncer à l'utilisation de ces armes et de détruire complètement tous les stocks. L'Afrique du Sud est ainsi devenue le premier pays au monde à renoncer volontairement aux armes nucléaires.
Et ils se sont désarmés entre-temps, mais ils avaient cette capacité de fabriquer des missiles, des avions, des hélicoptères. C'est eux qui ont procédé, par exemple, à l'amélioration des hélicoptères d'attaque algériens, qui étaient d'origine russe. Et donc, nous avons à chaque fois une touche sud-africaine qui améliore des équipements rustiques et solides, qu'ils soient occidentaux ou plutôt du bloc de l'Est.
Mais je crois que aussi il y avait une certaine industrie des drones et précoce, hein?
Bien sûr,
précoce de drones d'attaque.
Bien sûr, ils étaient. En fait, l'Afrique du Sud s'est très fortement inspiré de l'industrie militaire israélienne. Ils étaient un peu dans la même situation. Ils étaient sous embargo et ils étaient sujets à une pression, à un encerclement. Et donc, ils ont opté pour les choix d'Israël en termes d'industrie militaire, donc développer des drones. Et ils étaient aussi en infériorité numérique face à leurs ennemis. Donc, ils ont parié sur le blindage, ils ont parié sur les drones, sur l'aviation, sur tout ce qui faisait que le moins d'hommes possible pouvaient mourir et qu'ils puissent infliger le plus de destruction possible à leurs ennemis. Donc, c'est pour ça qu'on a cette similarité. Effectivement, Israël était un pays pionnier avec l'Iran dans le domaine des drones et et les Sud-Africains développaient des drones déjà au début des années 80.
Et la qualité des armements, est-ce que c'est des armements qui concurrencent même ce qui est produit dans les pays occidentaux ou dans les pays de l'Est?
Qu'est-ce que vous le climax de l'industrie militaire sud-africaine, c'est surtout les années 90 en termes de technologie, parce que c'est là où ils avaient commencé à accéder à la technologie. Malheureusement, ça a décliné après. Ils arrivaient à produire des équipements très rustiques, très robustes, qui ont connu la guerre, qui ont connu un retour d'expérience. Donc, faut pas oublier que l'Afrique du Sud a connu une guerre de 20 ans avec la Namibie, l'Angola, le Mozambique. C'est un pays qui a connu une guerre de très haute intensité. On se rappelle de la bataille de Cuito-Canaval qui a vu un engagement de 60 000 hommes de part et d'autre entre les Cubains, les Angolais et les Sud-Africains. Donc, ils avaient d'excellents équipements, très efficaces, très précis et surtout très robustes. Donc, c'est pour cela que, en quelque sorte, de l'armement occidental, c'est celui qui se rapproche le plus de la philosophie russe et chinoise. Robustesse et efficacité, plus que technologie.
D'accord. Et est-ce que, une dernière question sur ce sujet-là, est-ce que vous pensez que la base industrielle qui a justement servi à la production de ces armements est toujours présente, même si un peu démunie, et qui peut être relancée à nouveau rapidement?
Donc cette base industrielle existe toujours, elle a été pillée, elle a été récemment pillée par les Émiratis qui ont amené des capitaux, elle a été aussi pillée par les Occidentaux, mais elle existe toujours, le potentiel existe toujours. Il suffit qu'il y ait un marché, qu'il y ait un accompagnement à l'international et qu'il y ait aussi surtout des capitaux, parce que l'armée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'armée sud-africaine n'achetait plus d'armes. Et étant très loin de vraiment à l'autre bout de la planète, ils n'arrivaient pas à placer leurs armements sur les marchés internationaux, n'ayant pas ces commandes publiques permettant justement d'attendre et d'être présent. Donc, s'ils sont accompagnés, s'ils ont des commandes publiques, leur industrie peut très facilement redémarrer.
D'accord. Donc, je passe maintenant à la deuxième question. Donc, par rapport à la première question, à contrario, l'Afrique du Sud a-t-elle un intérêt à garder une position de puissance régionale à cheval entre les deux blocs en compétition, c'est-à-dire les Occidentaux et l'Est formé par la Chine, essentiellement par la Chine, la Russie et probablement l'Inde et l'Iran? Alors, qu'en pensez-vous?
Oui, ils ont tout à fait intérêt à faire ça. Ils sont aussi tributaires d'une situation régionale qui est très compliquée. Ils ont des problèmes de démographie, ils ont des problèmes de migration et ils ont des problèmes à leur porte, donc dans certains pays riverains. Et ils voient que les Occidentaux ne sont pas toujours à leur côté et ne les aident pas sur ces points précis. Et donc, voyons par exemple la puissance de la Grande-Bretagne diminuer et le poids géostratégique de la Grande-Bretagne diminuer dans la région, je pense que les Sud-Africains ont tout intérêt à avoir de bonnes relations aussi avec la Chine et aussi avec la Russie, deux acteurs clés qui sont appelés à jouer un rôle de plus en plus grand en Afrique. Et étant puissance régionale africaine, ils doivent collaborer en bonne intelligence avec les autres puissances qui sont en train d'entrer en Afrique, notamment la Chine et notamment la Russie, effectivement. Mais je pense qu'ils vont quand même œuvrer à garder de bons rapports avec l'Occident de manière générale, avec les États-Unis.
D'accord. Alors, une dernière question. Et qui est une question de géopolitique. Alors, lors du 14e sommet des BRICS en juin 2022, le président chinois avait déclaré, je cite, « Certains pays cherchent à élargir les alliances militaires pour s'assurer la sécurité absolue, à créer la confrontation des blocs en forçant les autres pays à prendre parti et à prétendre à la suprématie au détriment des droits et intérêts des autres pays. » Il ajoute, si nous laissons cette tendance dangereuse se poursuivre, le monde pâtira de plus de turbulences et d'insécurité. Donc, la semaine passée, il y a donc un lieutenant général américain qui commande les Marines au Japon, qui est toujours en actif, qui est le général James Bierman, qui confirme ces propos dans une interview au Financial Times, où il explique comment les États-Unis tendent un piège à la Chine en l'incitant à entreprendre une action militaire contre Taïwan, de la même manière qu'ils ont provoqué la Russie pour qu'elle s'engage en Ukraine après le coup d'État de 2014 qui a renversé le président Yanukovych, légitimement élu. Bien. Alors, est-ce que vous pensez que les exercices navals prévus en Afrique du Sud, sous un même commandement intégré, peuvent-ils être le prélude à une alliance militaire beaucoup plus forte pour contrer les projets occidentaux et de l'OTAN dans cette région du monde? Et la deuxième partie, si l'Inde, donc les liens avec l'Amérique latine et l'Afrique dépendent de la sécurité justement du passage au large de l'Afrique du Sud, se joindra-t-elle à cette alliance?
Oui, l'Inde considère la mer, l'océan Indien comme étant sa mer, comme étant une mer interne et sa principale, son principal précaré géopolitique. Donc, je pense que l'Inde va se joindre à ces efforts-là. Je pense aussi que l'Inde n'a surtout pas intérêt, malgré ses inimités avec la Chine, mais à ce que la Chine entre en guerre avec les États-Unis ou avec Taïwan. Ça a beau être un ennemi, l'Inde a beaucoup à gagner à garder la Chine, une Chine stable. Donc, de ce point de vue-là, l'Inde va probablement rejoindre militairement ce groupe-là. Et ce que je pense, c'est que aujourd'hui, la principale problématique des pays occidentaux et surtout des États-Unis à leur tête, c'est une problématique de temps. Chaque jour qui passe, c'est un jour où la Chine se développe économiquement et c'est un jour où on se rapproche de plus en plus de la fin de l'hégémonie totale du dollar sur le monde. Et donc, c'est pour cela que nous sommes dans une période où les États-Unis provoquent, poussent à la guerre, poussent à l'affaiblissement de ses compétiteurs. Et c'est pour cela aussi que ces compétiteurs doivent montrer leur détermination à continuer ce qu'ils font, mais tout en évitant de recourir aux moyens d'une guerre. Donc, la Chine, en n'ayant pas une attitude hostile envers Taïwan, en maintenant un équilibre aussi, et là c'est très important, dans la péninsule coréenne, la Chine est en train de devenir un élément de stabilité, garantissant une transition vers un monde multipolaire avec moins d'hégémonie ou la fin de l'hégémonie du dollar et un retour des États-Unis à leur taille normale.
Donc qui est c'est-à-dire de puissance régionale.
De grande puissance, de puissance nucléaire, mais n'ayant pas le pouvoir de faire et défaire le monde. Donc, de grandes puissances mondiales, mais n'ayant pas de pouvoir sur les autres pays.
D'accord. Et pensez-vous que cette alliance de ces quatre pays où l'Iran se joint sont capables de mettre, disons, une limite à ces dépassements occidentaux dans toutes les mers du monde?
Non, ça servira surtout à dire qu'il y a une contrepartie, qu'il y a autre chose que les États-Unis et que si l'on met bout à bout les marines de ces alliances-là et leur sphère d'influence, nous avons une couverture de pratiquement toute la planète ou du moins toute la planète utile. Donc nous sommes avec cette logique-là, nous sommes présents en océan Indien, dans le Pacifique Nord, dans le Pacifique Sud et en Atlantique, donc partout. Et cela aidera à éviter, à mon avis, sera suffisamment dissuasif auprès des États-Unis, les empêchant de réellement faire ce qu'elles veulent, je pense. Et je pense que nous sommes dans la dissuasion, nous ne sommes pas dans la confrontation, et nous sommes dans dans une sorte de remodelage du monde autour d'entités régionales solides qui contrecarraient une hégémonie.
Non, parce que en lisant les déclarations du général James Bierman, premièrement, étant donné qu'il est toujours en actif, on se demande comment il peut se permettre de tenir un tel propos alors qu'il est tenu par le devoir de réserve. Donc, on se demande pour quelle raison ce propos-là a été tenu. Et à en croire ce qu'il a dit, c'est que vraiment, et les Américains et les Japonais et d'autres pays dont cette région de l'Asie de l'Est sont sérieusement en train de préparer un conflit contre la Chine.
En tout cas, ils s'y préparent de manière très, très sérieuse. Même si je doute très, très fort que les États-Unis engagent des hostilités face à la Chine ou multiplient les provocations face à la Chine, parce que s'aligner la Russie et la Chine, ce serait une très grave erreur, je pense, des États-Unis, qui perdraient en termes économiques plus qu'ils ne gagneraient.
D'accord. Je vous remercie, M. Khriev, pour cet entretien riche en informations et passionnant. Et j'espère vous retrouver dans une autre occasion un autre sujet. Merci beaucoup.
Merci. Au revoir.
C'était Akram Khriev, expert sécuritaire et militaire, fondateur et animateur du site d'information militaire MENA Défense. Vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Ce sont l'instabilité et l'insécurité qui marquent la scène internationale où le droit de plus en plus est bafoué par les Occidentaux, les États-Unis en tête. Ça ne laisse guère le choix aux pays du Sud que d'investir dans la construction d'armées capables de faire face à n'importe quel danger guettant leur souveraineté ou faisant bon marché de leurs intérêts vitaux. Dans ce sens, selon Akram Khriev, les puissances émergentes du Sud, aussi bien eurasiatiques qu'africaines, ont tout intérêt à joindre leurs efforts sur le plan scientifique, technologique, dont l'exploitation des ressources énergétiques, des matières premières stratégiques et la fabrication de composants sensibles. Et les bien entendu, explique l'invité de l'Afrique en marche, que la sécurisation des voies de navigation maritime est plus que jamais indispensable au vu de tout ce que les pays occidentaux ont imposé comme sanctions à l'égard de la Russie, de l'Iran et probablement contre la Chine dans un proche avenir. Ainsi, l'Afrique du Sud a un rôle important dans ce domaine étant donné qu'elle est la seule puissance économique et militaire du Sud capable d'assurer la sécurité des voies reliant l'Amérique latine et l'Europe du Nord à l'Asie du Sud. Dans ce sens, elle est aussi nécessaire que prévisible de voir les pays des BRICS avec la Russie, la Chine et l'Afrique du Sud en tête s'associer dans cette entreprise qui pourrait être rejointe dans un proche avenir par l'Inde, le Brésil, le Pakistan et l'Iran. Néanmoins, ce dernier est appelé au préalable à engager des réformes de fond de ses forces armées en mettant fin à la division verticale entre gardiens de la révolution et l'armée nationale régulière. Pour Akram Khriev, le risque de voir la navigation maritime via le canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandeb et le détroit d'Hormuz perturbé ou voire interrompu à cause de problèmes géopolitiques est très élevé en ce moment. Ce fait force les pays du Sud, notamment africains, à ne pas seulement compter sur l'apport militaire des grandes puissances comme la Russie et la Chine pour se défendre, mais à développer leurs propres capacités de fabrication militaire. Et de ce point de vue, l'Afrique du Sud est bien placée pour reprendre son statut de fabricant d'armes compétent en relançant son ancienne base industrielle militaire. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt, chers amis. Au revoir.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.